Mais qu'ils appellent ça comme ils veulent, mais prétendent que c'est le vrai judaïsme, c'est là qu'il y a conflit. Et vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est le chinois. Quelque chose a changé. Et effectivement, ça se rattache à un thème de Kabbalah que je voudrais vous formuler très rapidement. L'existence, c'est une lutte entre la conscience et le temps. Si le temps est plus fort que la conscience, la personne change. Elle change, elle meurt, elle disparaît. Les Grecs contemporains ne sont plus les Grecs de l'Antiquité. Le temps a été plus fort que la chose hélène. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Si au contraire, la personne est plus forte que le temps, disons l'usure du temps, tout ce que vous voudrez, eh bien alors il y a chinouche, il y a renouvellement, j'ai employé une image grecque, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est toujours le même phénix, mais bien que ce ne soit plus le même, mais c'est le même. Vous voyez, la racine de l'Echadesh se rattache au radical qui donnera le mot de Echad, alors que la racine de Shinoui, Echanot, se rattache au radical qui donnera le mot de Sheni. Pas de la même manière, mais vous voyez le parallèle. Et alors, dans la première partie de cette souvia, on met en évidence la nécessité du chidouche. Si le puits de la vérité, j'ajoutais la vérité, il n'y a pas d'eau jaillissante, alors en fin de compte, il y aura des serpents et des scorpions. Ceux qui connaissent un peu les textes talmudiques savent que l'expression « les serpents et les scorpions », c'est des expressions qui indiquent, les antagonistes de la bonne volonté, avec un degré de gravité. Le serpent, c'est la tentation. Bon, là, je vous fais un peu de littérature midrashique, mais c'est plus précis que ça. Mais le scorpion, le akrav, est plus grave que le nahash. Le nahash, il y a toute la symbolique du mauvais penchant, mais le akrav, c'est beaucoup plus grave. C'est celui, je vous cite un ancien nom du Rav Kook, qui est roker bait, qui déracine l'essentiel de la maison. Akrav. Roker Bait. En particulier, il y a une source dans le Talmud, c'est que lorsqu'on est en train de prier, même si un roi passe, on ne s'interrompt pas, alors vous voyez que c'est une vraie prière, ça dépend si c'est un vrai roi, et même si un serpent entoure son talon, il ne doit pas s'interrompre, et même si un scorpion le pique, il ne doit pas s'interrompre. Alors la Gemara s'étonne, qu'est-ce que c'est que ces miracles? Bien, un serpent, un scorpion. Mais le Rav Kook a expliqué sur un des commentaires de la Gemara, les scorpions d'Eretz Israël ne sont pas venimeux. Parce que, vous voyez le jeu, pas le jeu de mots, enfin la relation sémantique. Le roker bait, quand on est dans la maison, on n'arrache pas la maison. C'est clair l'idée. Donc. Bon, voilà pour la première référence. On met en évidence l'importance du hidouche. Ça a été clair jusque-là. Okay. Alors, vous prenez maintenant la deuxième partie du texte, à partir de la deuxième ligne. Vavou, Patach Velarash. Il a commencé un enseignement. Je crois que c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Non, c'est Rabbi. Je me perds pas. Rabbi Yoshua. Alors, c'est Rabbi Yoshua qui commence un enseignement en citant la fin du livre Kohelet, c'est l'Ecclésiaste. Alors, je vous traduis d'abord littéralement et je vous lirai ensuite la traduction de la Bible du Rabbinat, qui est beaucoup plus littéraire, mais pour vous indiquer à quel point. Il suffit de raisonner sur une traduction pour ne pas percevoir quel est vraiment l'objet de l'enseignement précis du Talmud. Dibrei Chachamim Kadarbonot. Les paroles des sages, retenez bien, il s'agit des paroles des sages. C'est la fin du livre de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire la fin du chapitre 12. Dibrei Chachamim Kadarbonot. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Ukmasmerot netoim, baal et asufot. et comme des clous plantés, les maîtres des assemblées. Nitnu Meroa et Echad, ils ont été donnés d'un seul berger, et point. Ça, c'est la traduction du verset. La Gemara dit, après je reviendrai sur, je vous lirai le. La Gemara dit, Lama anim shelu dibre Torah le darban, pourquoi les paroles de la Torah ont été comparées à un aiguillon? Et remarquez tout de suite que le verset a dit, dibre hachamim, les paroles des sages. Et la Gemara dit, dibre Torah, les paroles de la Torah. Il y a donc un premier postulat de lecture, qu'on ne parle que des hachamim de la Torah. C'est bien clair? Prenez Rashi. Attendez, est-ce que Rashi parle de ça? Bichlal. Non, pas ici. Non, c'est pas Rashi, c'est le Rashba. Bon, Rashi, on verra par la suite. Mais c'est moi qui voulais citer ce commentaire. Le verset dit les paroles des sages, et la Gemara va raisonner en disant d'Ivrei Torah. Pourquoi les paroles de la Torah sont comparées à l'aiguillon? Donc il s'agit des sages de la Torah. Nous aurons immédiatement à formuler un premier critère. Dans quelles conditions ce que nous avons appelé les divergences d'opinion à l'intérieur d'une même doctrine sont légitimes. Lama nimshel l'Ivrei Torah les darban. Pourquoi les paroles de la Torah sont comparées à l'aiguillon? L'omar lecha. C'est pour te dire, vous suivez le texte? De même que l'aiguillon, littéralement que cet aiguillon dirige la vache sur les sillons, les otsi chaim la olam, pour faire sortir la vie du monde, c'est-à-dire les récoltes, av dibre Torah, mechavnim et limudehen, midarke mita le darke chaim. De même, les paroles de la Torah dirige ceux qui les étudient des chemins qui mènent à la mort au chemin de la vie. Donc un premier enseignement, pourquoi les paroles de la Torah sont comparées à l'aiguillon? On continue, tout ça c'est une explication sur le verset. Okay. Ce que je vais mettre en évidence très rapidement, c'est qu'il s'agit de chemins. Il ne s'agit pas de dictates. Il s'agit d'indications de conduite qui impliquent fécondité. Mais je reste dans la cohérence de la lecture de cette Gemara. Il est évident que s'il s'agissait de paroles dites et non pas de drachim, de chemin, de conduite, ce qu'étudie la Mishnah, faites bien attention quand une Mishnah parle de davar, une chose qui est dite et qui doit rester comme elle est dite. Et quand une Mishnah parle de derer, en parlant de l'élaboration de mitzvah, il s'agit d'une perspective, il s'agit d'une conduite, d'une manière d'être, et qui doit être féconde. Et alors, ima darban ze mitalter, alors tu pourrais dire, mais alors que de même que un aiguillon est mitalter, ça veut dire il peut aller d'un endroit à l'autre et disparaître de là où il a disparu. Aidez-moi à trouver ça en français. Comment on dit quelque chose qui est
fugace.
Non, plus que ça. Qui est soumis à déperdition. On dit par exemple d'un verre qui est cassable. Vous voyez l'idée? Périssable. Voilà. Périssable. Métaltel, ça veut dire que lorsqu'il est dans un autre endroit, il n'est pas là où il est. J'ai pas pris le temps de réfléchir au mot français correspondant. Éphémère, il a fait. Madarban ze metaltel, abdibre Torah metalteline. Alors tu pourrais dire la même chose des paroles de la Torah, puis tu l'as comparé à un aiguillon. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset te dit, masmerot, c'est comme des clous. Ça veut dire, masmerot netoim, a dit le verset. Des clous plantés. Ils sont bien là où ils sont. Ils ne sont pas aléatoires. Mais alors, imam, masmer, ze, haser, beloyeter. Mais alors, tu pourrais dire que de même qu'un trou, qu'un clou, mène un manque dans ce qu'il cloue. Si je cloue un clou sur une planche de bois, je fais un trou. Alors, c'est haser, beloyeter. c'est cause de vide et non pas de cause de manque et non pas de surplus. Talmud Lomar, non, Avdi Bretora, Chasserim Yeterim, vous avez compris la suite. Talmud Lomar Netouaim, c'est pourquoi le verset te dit planter. Maneti Azou, de même que cette plantation, para verabba, et fructifie, Avdi Bretora, parin verabin, de même les paroles de la Torah fructifient. C'est la suite du verset, Baale Asoufot, les maîtres des assemblées. Elun Talmide Chachamim, il s'agit des disciples des sages, la première partie du verset pour les sages, la deuxième partie pour les disciples des sages qui sont en assemblée, chez Yoshbin Asoufot Asoufot, qui s'assied en assemblée, Elun Veroskin Batora, et s'occupe de la Torah. Alors voilà notre sujet. Halalum et Ameïn, les uns rendent impurs, Veralum et Taharin, et les autres rendent purs. Halalum Osrin, Veralum Atirin, les uns interdisent, et les autres permettent. Halalum Poslim, Veralum Archirin, les uns disqualifient, rendent pasoul, ça veut dire déclarer que c'est inapte, on va rachi, Veralum Archirin, et les autres habilitent. On est tout de suite Rashi. Vous savez où est Rashi dans la page, hein? Ici, c'est de ce côté. Alors vous prenez à la deuxième ligne. Poslin ou Marchirin. Shayach Lomar, Leinyan Psul Edut ou Psul Keuna. Voilà ce que nous dit Rashi. Je le cite pour renforcer la gravité de l'enseignement. Ça veut dire que ça concerne lorsqu'on rend un témoin, on disqualifie un témoin ou un prêtre. Ça veut dire, ça porte vraiment sur des sujets graves. Le fait de déclarer qu'un témoin est un faux témoin. Non, ça, c'est pas ça veut dire. Est un témoin qui n'a pas le droit de témoigner. Ou qu'un prêtre a un défaut qui l'empêche d'être vraiment prêtre. Et alors, les sages et les disciples des sages, dans tel endroit décident kasher, dans notre endroit décident passou. On voit bien qu'il s'agit de divergences qui mettraient en question l'essentiel même du principe d'unité de la tradition dont on se réclame. C'est bien clair? Je continue. Shema Yomar Adam, de peur que l'homme se dise Eachani Lamed, Lamed Torah, où je vais aller apprendre la Torah, Merata, à partir de maintenant que je sais que dans tel endroit on va dire oui, dans tel endroit on va dire non, et pour la même question, Où vais-je aller? Et là, nous sommes au bord d'un précipice de problèmes. À partir d'un certain stade du développement de notre histoire, la référence unanime-anonyme, si j'ose dire, a disparu. Et on ne sait plus où est la légitimité de la chaîne, je dirais, traditionnaire. Je ne veux pas dire traditionnelle, mais par où passe la reconduction de la tradition. C'est la Gemara déjà même qui met en évidence, peut-être tu vas avoir cette inquiétude, cette perplexité, et elle va nous rassurer de manière vraiment paradoxale. Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle le verset continue à dire « Kula mitnu mirore echad » « Tous ont été donnés du même berger. »« El echad netanan » « Un même Dieu les a donnés » « Parnas echad amram » « Amran » « Un même » comment on traduirait ici Parnasse, nourricier. Un nourricier les adites, Mipiadon Kolama Asimbaouchou, de la bouche du maître, de tout ce qui existe, de tout ce qui a été fait dans le monde. Et c'est là déjà que nous allons atteindre le premier important critère. Dirkiv, parce qu'il est écrit, c'est le verset qui précède les 10 commandements, Vaidaber Elokim et Kola Dvarim Aele. C'est Dieu qui a dit toutes ces paroles. Dans la source de ce texte, c'est Dieu qui a dit ces 10 paroles des 10 commandements. Comment la Gemara l'utilise? Tu as entendu des paroles différentes, contradictoires de la bouche des sages, c'est le même Dieu qui les a dit toutes ces paroles-là. En résumant beaucoup, les commentateurs indiquent que le Elohim, c'est au pluriel. Elohim, Chaim, c'est au pluriel. Chaim, la vie, est un pluriel. Et il y a de nouveau cette multiplicité fécondité d'une Torah eau jaillissante. Maïm aussi, c'est au pluriel. Vous voyez comment continue cette cohérence. On va lire la suite de Rashi. Prenez au troisième ligne. À la troisième ligne de Rashi. Elecha d'Amran. Suivez bien ceci. En lecha mi bene amachloket. Tu ne trouveras jamais parmi les tenants d'une controverse mevi reaya, quelqu'un qui apporte une preuve mi torat eloka acher, de la Torah de notre Dieu, et la mi torat Elohenu, mais de la Torah de notre Dieu. Ça veut dire il y a d'abord un postulat d'identité de l'ensemble de cette gerbe, comment dire, d'opinions différentes dont il est parlé. Il y a un critère. Il s'agit des Chachmei Torah. Il s'agit, et le Rashi est très clair, dit tu vas traverser tout le Talmud, et dans toutes les controverses du Talmud, tu verras que personne ne motive son opinion en se référant à autre chose que la Torah elle-même, en tant qu'elle est donnée par Dieu. Vous rappelez, je reprenais à la fin de la Gemara. Mais Roé Echad, d'un même berger, la Gemara surenchérit, je crois que c'est intentionnel. El Echad Netanan, un Dieu unique, un, les a donnés. Et tous les mots sont importants. C'est Dieu qui a parlé ça. Par Nasechad Amran, il s'agit de Moïse. Mipi Adon Kolamo Asim, et de quel Dieu s'agit-il? Du Créateur du monde. Ça veut dire, si c'est dans cette perspective-là que la manière dont la Torah une est dite de manière différente, alors c'est légitime, c'est cachère. Donc je crois que c'est très restrictif, ce principe de légitimisation de la divergence. Et la question, je vais la poser de manière simple et vous donner la parole. Il s'agit de la divergence de qui? Il s'agit de la divergence de qui? Ben, il s'agit de la divergence des Chachmei Torah. Et qu'est-ce que les Chachmei Torah? Ceux qui croient que la Torah est révélée par Dieu à travers Moïse, et quel Dieu? Le Créateur du monde. Alors si on se trouve dans cette perspective, notre problème devient clair. Et le temps où nous vivons, je vais laisser la troisième référence pour après si on a le temps, mais je vous l'expliquerai même sans faire l'exégèse. Le temps où nous vivons montre, et je reviens à ma remarque de départ, qu'au fond c'est ça qui est en question. S'il s'agit vraiment d'hommes qui ont la même foi, mais il est tellement difficile à expliciter cette foi, parce qu'elle se réfère à des ineffables. Il s'agit de savoir qu'est-ce que les sages entendent par prophétie, révélation, Dieu, un maître du monde. Et dans la mesure où il s'agit d'un consensus à ce niveau, alors les divergences sont légitimes parce qu'elles sont toutes authentiques. Il y a ce pluriel de Elohim Chaim, de la vie qui est au pluriel en hébreu, et qui fait que la Torah révélée doit être confrontée à l'histoire qui se fait dans le monde que ce Dieu a créé, de telle sorte que les Dibrei Chachamim, qui font parler la Torah pour chaque temps, aient chance d'être des paroles de Torah et pas des paroles du temps. Je ne sais pas si c'est clair que j'ai dit ça. Or, ce qui rend le problème extrêmement difficile, et je n'entrerai pas dans l'ensemble des exemples que Alain prendra, quoique vous allez passer un bon séminaire avec ça, ces 2000 ans d'histoire passionnante, c'est que cette impossibilité de trouver le critère se trouve précisément en dominant dans les milieux qui sont censés être les plus traditionnels. Et c'est pourquoi j'ai fait allusion un peu au schisme intérieur du monde haredi. C'est ça qui est le plus inquiétant, qu'il y ait des tendances différentes dans la société juive, c'est un autre problème, c'est un problème sociologique. Mais qu'il y ait des tendances aussi différentes dans le monde dit orthodoxe, j'ai préféré dire haredi que orthodoxe, parce que orthodoxe, ça veut dire ceux qui veulent suivre la voie droite, et il y a énormément d'orthodoxes qui ne sont pas haredim. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Je crois que vous êtes familier quand même suffisamment au vocabulaire. C'est ça qui devient inquiétant. C'est-à-dire, quelque chose s'est passé qui met en question non pas la capacité de connaissance et d'érudition des grands de la Torah, qui met en question, je vais dire quelque chose de très grave, mais je le vis ainsi, qu'il met en question la foi. À quelle foi se réfère-t-il? C'est très différent comme problème. Or, depuis très longtemps, les rabbins, et c'était en particulier dans la tradition sfarade dans laquelle j'étais élevé, les rabbins avaient pris, depuis la fin du haut Moyen-Âge, les rabbins avaient pris l'habitude de ne jamais poser d'ultimatum, des questions de confiance ou des questions de foi. Et on a pris l'habitude, finalement, c'est beaucoup plus accusé chez les Ashkenazim, mais c'était vrai aussi chez les Sfaradim. On a pris l'habitude de demander convergence sur la pratique et sur la croyance, sur la connaissance, pas la connaissance. Je ne parle pas de l'érudition, il y a beaucoup d'érudition pour savoir comment pratiquer. Mais sur la compréhension de la Torah, il y avait le postulat que plus personne n'est capable, alors on ne va pas excommunier des gens, parce qu'ils sont plus capables de penser vrai. Et donc le principe était le suivant, la pensée est laissée à la subjectivité, c'est la pratique qui doit être unanime. Et je crois que c'est là le fond de la catastrophe. Je voudrais donc reprendre le sujet. L'idéal serait unité de la doctrine au niveau de la pensée et légitimité des comportements suivant la différence des personnes. Et il faudrait retrouver un personnalisme. La Torah prévoit que chaque tribu avait ses juges. Un autre sujet apparemment, mais c'est le même sujet. Que chaque tribu avait ses juges, mais c'est la même Torah. Mais la loi pour la conduite des options était donnée à la diversité des personnes. Ce que je vous dis là est complètement hérétique par rapport à la règle communément admise dans le monde orthodoxe. Mais c'est le Talmud que je vous ai cité. Vous avez la parole. Le silence des espaces infinis m'effraie. Vous avez remarqué que... Tira, oui, apparemment quelque chose à voir. Vous avez remarqué que je n'ai pas du tout fait allusion à l'exemple que je voulais vous donner dans un autre texte que je vous ai laissé à cause du fait que l'heure avance. Mais voilà de quoi il s'agit. C'est un texte, vous pouvez l'emporter, l'étudier avec votre rabbin personnel, avec votre talmudiste personnel. C'est un texte où un maître demande à ses élèves de lire un verset. Et puis chaque élève a une lecture différente. Mais il s'avère en fin de compte qu'ils avaient la même lecture, et à partir de la même lecture, ils exprimaient une facette différente du même verset. Mais qu'ils avaient vraiment la même lecture. Je suis vraiment désolé qu'on n'ait pas le temps de faire ce texte, mais peut-être qu'on le fera un jour. Vous avez quand même la parole, parce que je suppose que vous avez des questions. Oui, madame, vous avez... Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends rien. Levez-vous, par exemple.
Sur quoi on se base quand on dit qu'entre
les Ashkenazes
et les
Sfarades,
il y a une
différence de foi? J'ai pas dit ça. Vous avez entendu dire ça? C'est enregistré, vous savez. Allez, écoutez, parlez debout, ça sera plus clair. Écoutez, je crois que vous pensez à un problème qui correspond à certains mots que j'ai employés, Ashkenaz Sfarad, mais je n'ai pas parlé de votre problème. Un juif Ashkenaz est un juif authentique. Il a sa propre équation de perception du judaïsme, et c'est authentique. Mais pour être Ashkenaz, il faut être Ashkenaz. Un juif séfarade de la même manière. Le fait de faire des sectes opposées est dangereux sociologiquement. Je crois que nous sommes en un temps, bon, je suis un petit peu pro-domo, moi j'ai fait un mariage mixte. Ma femme est Ashkenaz et c'est mon qui m'appelle Ashkenazi. Mais grâce à Dieu, les gens vont bien. Nous sommes dans un temps où l'unité inévitablement se fera. Il y a, surtout dans le monde haredi, et je vais expliquer pourquoi je dis surtout dans le monde haredi, il y a une cristallisation de cette fidélité à des manières d'être des siècles antérieurs qui risquent d'être sociologiquement dangereuses. C'est-à-dire, j'ai remarqué une chose dans la société israélienne, plus on avance dans le monde religieux, plus c'est religieux, et plus les clivages tribaux sont graves. Et il faut quand même dire les choses comme elles sont. J'ai fait partie pendant 5 ans de la commission de l'enseignement, la commission de l'éducation nationale en Israël, de l'enseignement religieux, et je peux vous garantir que quand mes collègues ashkenazim ont découvert que j'étais sfarade, je l'ai senti passer. Ensuite, ils se sont habitués, mais ils n'ont encore pas compris comment je peux être sfarade. Et donc, pour vous dire que c'est Al-Bessari, je l'ai expérimenté personnellement. Plus on passe dans des milieux de plus en plus religieux, et plus c'est accusé. Alors, je vais vous donner un exemple. La querelle qu'il y a chez les Haredim, entre Mitnagdim plus et Chassidim plus, est un exemple qui montre qu'il y a là un danger. Ça arrive jusqu'au fait que c'est un miracle quand on se marie ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Je pense très sincèrement que toutes les traditions, et il n'y a pas qu'à Ashkenaz et Sfarad, il y a des centaines de manières d'être juif. Ça, c'est des exemples, en gros plan. Okay. Toutes les traditions sont légitimes. Elles ont été l'histoire des juifs. Mais que le temps est arrivé de penser une unité de la nation, une unité du peuple, une unité de la Torah. Et le fait de s'excommunier du haut de ces différences, ça me paraît un problème plus que sociologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, je vais un peu approfondir ça. Je crois que Dieu a confié au peuple d'Israël la tâche de l'idéal d'unité pour l'universel humain. C'est notre problème. Et que s'il est résolu par Israël, il est résolu pour l'humanité. Je crois d'ailleurs que beaucoup de sociétés non-juives pressentent ça, que dans la municipalité israélienne se cherche en laboratoire la solution d'un problème qui est très difficile dans le monde entier. Comment faire coexister les différentes manières d'être homme. Alors, je sais pas si vous rendez... Je vous parle de la municipalité israélienne, pas de la synagogue. Okay. Au contraire, dans la synagogue, on a tendance à se grouper avec origine atavique. Parce qu'on est plus à l'aise en priant comme celui qui prie de la même manière. Je parle de la municipalité. Ce sont des municipalités qui rassemblent toutes les manières d'être homme de l'universel humain à travers leurs juifs. J'ai l'habitude de donner... Et puis la municipalité existe. Il y a des problèmes, mais la municipalité existe. Si je n'étais pas des juifs, il n'y aurait plus de municipalité. Il n'y aurait pas de problème parce qu'il n'y aurait pas de municipalité. Je pose les choses à la limite, mais je m'explique. Je vous donne... comme nous vivons cela, nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons d'être israéliens à ce niveau-là. Acherez-nous maintenant, frère Kenny. J'ai l'habitude de donner l'exemple de l'immeuble où j'habite. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 appartements et il y a 10 origines différentes. Alors, mon voisin de palier était un juif écossais. Parce que vous vous rendez compte, juif écossais. Et quand on se rencontrait sur le palier, moi j'ai éclaté de rire en français de voir le kilt écossais et lui il éclaté de rire en écossais de voir un mangeur de grenouilles caché. Alors que moi, français algérien, et lui, écossais polonais, mais enfin, c'est quand même... Alors imaginez un binyan israélien moyen. Un rassemblement de manières d'être homme radicalement différents qui n'arrivent pas à vivre ensemble à l'ONU. Et ça, c'est le phénomène de la municipalité israélienne. Nous sommes une sorte de creuset de laboratoire de l'unité de l'homme universel. Dans le langage des prophètes, ça s'appelle le fils de l'homme, Ben Adam. Okay. Et il y a des problèmes, bien sûr. Mais encore une fois, il n'y a que des problèmes. Et si, pour le dire d'une autre manière, si c'était des goïms, il n'y aurait pire que des problèmes. Los Angeles. Et par exemple, pour ne parler que de ça, eh bien, et tout se passe comme si Dieu a confié à la société juive ce problème de la coexistence des différentes manières d'être homme. Et je vous garantis, parce que ça a été mon expérience, je vous ai dit, j'ai fait un mariage mixte, qu'un Ashkenaz et un Sfarad, c'est différent. Et pourtant, c'est la même chose chez les enfants. Et je vous donnais un exemple de ce qui s'est passé au temps de mes fiançailles. On avait des accords secrets, parce qu'on avait un grave problème. Comment chanter aux enfants pour les bercer? En yiddish ou en judéo-arabe? Mais je vous garantis que c'est très différent, ça n'a rien à voir. Alors on a eu un accord, on l'a chanté en hébreu. Finalement, ça nous a amené ici. Et puis, il m'est arrivé de surprendre ma femme à la chanter en yiddish, il lui est arrivé de me surprendre à la chanter en judéo-arabe. Mais il y avait l'hébreu qui faisait l'unité. Alors c'est ça que je veux dire. Imaginez qu'il y a, 120 manières d'être juif différentes dans ces municipalités israéliennes. Et par conséquent, il y a effectivement là une identité humaine qui est capable d'unité, quels que soient les problèmes. Mais au niveau sociologique, c'est évident. Au niveau idéologique, c'est une toute autre affaire. Lorsque ça se cristallise en secte, de quel torrent on parle? Et je crois que le fond du problème, c'est un problème de en quoi les Talmidei Chachamim croient, pas en quoi, pas qu'est-ce qu'ils savent. Il ne s'agit pas du tout d'érudition, il s'agit de foi. Parce qu'à l'origine, il s'était agi de foi dans une révélation. Qu'est-ce qu'ils entendent par là pour être si divisés? Alors, je ne dirai pas plus là-dessus. Monsieur, oui.
La remarque que tu viens de faire, foi, pratique, bien que tu ne les opposes pas, ce n'est pas dans la question, ça me surprend un peu. Parce qu'effectivement, dans le monde ashkénaze d'où je viens, qui a dû lutter contre le christianisme, enfin, le grand leitmotiv était que, comme tu l'avais fait remarquer, que les chrétiens ils parlent beaucoup de foi et de théologie, tandis que nous, les juifs, apparemment, nous sommes plus pratiques, nous pratiquons certaines choses, la Torah, c'est une Torah de vie, et donc l'accent est mis sur la pratique. Alors quand tu viens de dire que ce qui est important, c'est en quoi on croit, et en quoi on croit est beaucoup plus difficilement définissable parfois que ce qu'il faut vraiment faire, ça me surprend.
Oui, jusque-là, parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Regarde, heureusement que tout ça s'est enregistré. Ce que tu as dit, que j'ai dit, c'est pas exactement comme ça que je l'ai dit. Je m'en ai eu dans deux choses, parmi d'autres, mais deux choses importantes. Il y a une phrase qui a dû échapper dans mon exposé. C'est quand j'ai dit que c'est très tardif qu'il s'est installé ce principe qu'on laissait penser de manière subjective et qu'on demandait l'unanimité sur la pratique. C'est très tardif. Et je dirais même que c'est une tolérance. À l'origine, c'était l'inverse. Il y avait unité de doctrine et divergence légitime de comportement. Alors, j'ai parlé surtout de ce qui se passe dans le monde haredi. Bien sûr, chez les réformés, par exemple, il y a tout à fait autre chose. Mais tu comprends, je vais répondre à ta question. Et puis, deuxièmement, c'est peut-être le mot de foi qui te gêne, mais tu confirmes ce que j'ai dit, parce que tu es d'origine ashkénaze. En parlant de l'environnement chrétien, et bien nous parlons français. Si nous parlions hébreu, j'aurais parlé de l'émouna. Quand un juif dit qu'il est ma'amin, il est ma'amin en quoi? Lorsqu'il il parle de Torah Min HaShamayim, est-ce que c'est façon de parler ou est-ce que c'est à prendre au sérieux? Lorsqu'on cite cette Gemara, que c'est un même berger qui a donné ses paroles différentes, mais il s'agit du maître du monde qui s'est révélé à travers Moïse à Israël, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est Alfred de Musset? C'est ça que je veux dire, sans ça je parle. Je ne parle pas du tout des doctrines théologiques, de la grâce par la grâce, le salut par le salut, c'est déjà comme ça. Et je veux vous dire, pour moi les choses me paraissent assez simples à désigner. Et il y a une espèce de tabou sur ces questions-là, parce que nous sommes tellement loin du temps de la révélation que plus personne n'est capable, je ne dirais pas d'imaginer, mais de diagnostiquer de quoi les maîtres ont parlé, sauf ceux qui sont initiés à cette émouna. J'ai pas dit foi, ma foi. Or, quand je vois que dans des problèmes de fond de la émouna, Il y a des divergences. C'est clair. Bon. Lorsqu'il s'agit du Dieu d'Israël, où est Israël? Est-ce qu'il est aux antipodes ou ici? Par exemple. Ne serait-ce que ça. Et donc, voilà, j'ai voulu désigner de manière un petit peu, vraiment très très peu, didactique, un problème qui est au fond un problème de fond, dont on ne parle pas de cette manière tous les jours. Okay? Mais au fond, pour vous rassurer, ça veut dire que c'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils disent qui ont tort. Tu m'as exprimé, vous avez compris. Mais quand vous êtes en présence d'un chaos d'opinion, eh bien rassurez-vous, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. De poser clairement. Je vais vous donner un exemple. Je prends une partie de mes obsessions. Bien. Le judaïsme religieux non sioniste. Vous savez que je suis obsédé par ça. Parce que chaque fois je me dis, je l'ai échappé belle. je vais vous raconter un midrash. Enfin, c'est un apologue à la manière dont le Rav Kook nous enseignait. Il disait ceci, c'est que il y a beaucoup de juifs qui disent « Je ne me sens pas bien en Israël. » Alors, il a répondu, je vous donne deux exemples. Il a répondu par un apologue. Il dit « Voilà, un jour, il y a un jeune homme qui a demandé une jeune fille en mariage. Et puis, la jeune fille connaissait le jeune homme, elle n'en voulait pas. Alors, le jour de la chidour, comment on appelle ça, l'entrevue, au lieu de s'embellir, elle s'est enlaidie. Alors le jeune homme a dit, celle-là, j'en veux pas, elle est laide. Il dit, moralité, c'est elle qui n'en voulait pas. Bien. Et, vous savez, c'est clair. Et vous avez compris l'allusion. Bien. Et nous avons des versets pour ça, d'ailleurs. Ve'aret takiotam. Et puis, il nous avait donné un autre exemple pour comprendre ce problème. Il dit, voilà, pendant 2000 ans, le peuple juif était fiancé avec Eretz Israël. Le jour du mariage arrive, on ne se marie pas. Ça veut dire que même fiancé, on n'était pas. Alors, c'est un problème grave. Qu'est-ce que dit le judaïsme comme foi et pratique à ce sujet? Alors, je fais allusion à des milieux où on sait dire ce que dit le judaïsme pour savoir si une aile de poulet est cachère ou pas. Et il y a des degrés, comme vous savez. Cacheroute une étoile, cacheroute deux étoiles, glade cachère, strictement glade cachère, verroulé. Bon. Alors ça, il y a compétence absolue. Et pour savoir si c'est le temps du retour, opinion personnelle. Alors c'est des choses graves, tout ça, qui portent sur en quoi on croit.
Je vais te poser une question que vous avez une fois parlé à propos du Vatican. On parle de que maintenant ça se met. Quelle est votre idée? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai pas compris la question.
Dans le temps, vous avez passé du Vatican. Vous avez parlé du Vatican.
Mais quand?
Son activité. 5, 6 années.
C'est Vatican.
Y a-t-il vraiment déjà un changement de l'attitude des goyim par rapport à Israël?
Attendez, les goyim et le Vatican, c'est deux mondes.
Bon, ben, vous allez très bien.
Oui. Écoutez, nous sommes dans un temps, depuis quelques années, où on s'aperçoit que, je dirais, les goyim, l'universel humain, de plus en plus reconnaît l'existence d'Israël et ça s'accélère. Depuis l'effondrement de la Russie soviétique, c'est spectaculaire. Et finalement, le Vatican rejoint. Et c'est en route. On ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va se passer. Mais le seul fait, vous savez, la prudence diplomatique du Vatican, elle est Vatican. Le seul fait que le Vatican ait laissé dire que, oui, on envisage de nouer des relations d'État à État, que le Vatican ait reçu Shimon Peres pour accepter une invitation qu'il souhaitait d'entendre à venir à Jérusalem, montre que quelque chose a radicalement changé. Bon, alors ça rejoint nos espérances que même les schismes les plus radicaux finiront un jour peut-être par se résorber. Ce que moi j'ai appris à ce sujet, c'est que lorsque la Torah nous a raconté l'histoire de la séparation entre Jacob et Ésaü, ça concernait le judaïsme et la chrétienté. Je raccourcis, hein, il faut apprendre ça en détail. Et qu'en fin de compte, et nous sommes arrivés au mont Sion, et on va juger le Har-Esav. C'est-à-dire, nous sommes peut-être à une confirmation de plus que c'est bien le temps du rassemblement des exilés, et que peut-être la chrétienté, à travers le Vatican, c'est un gros morceau, va finir par se reconnaître comme elle n'aurait jamais dû cesser de se connaître, non pas un autre Israël, mais une diaspora d'Israël. Et le problème, ça sera pour les Juifs de la diaspora. Ils risqueront d'être avalés par la diaspora chrétienne. Je ne sais pas si vous savez que déjà, il y a plus de pèlerins chrétiens à Sukkot que de pèlerins juifs. Vous avez remarqué ça? Bon, ça rangera le Magbit. Bien, ben je vous remercie de votre attention et je vous engage à suivre ce séminaire que vous avez dans le livre. Là, vraiment, je suis handicapé, j'apprenais beaucoup plus tôt.